À la une de ce journal, quatrième jour de la guerre russo-ukrainienne, le Kremlin assure être prêt à négocier avec l'Ukraine. Le président ukrainien se dit prêt à des négociations avec Moscou, mais pas en Biélorussie. Pour parler de Vienne, Téhéran examine le texte de l'accord selon Amir Abdollahian. Et puis des centaines d'écoliers palestiniens se rassemblent près d'un village en Cisjordanie occupé pour faire entendre leur voix contre les restrictions israéliennes les empêchant de se rendre à l'école. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. L'opération militaire de Moscou en Ukraine en est maintenant à son quatrième jour. Le Kremlin affirmant que les troupes russes sont déjà entrées à Kharkiv, une ville du nord-ouest. L'armée russe affirme également avoir entièrement assiégé les villes de Kherson au sud et de Berdyansk au sud-est. Pendant ce temps, une série d'explosions a été entendue dimanche à l'ouest du centre de Kiev, la capitale ukrainienne, quelques minutes après le déclenchement des sirènes des raids aériens. Les médias ukrainiens ont également signalé des explosions et une fusillade dans une ville voisine. Des combats seraient en cours dans la ville de Boucha, à l'ouest de Kiev. Cela survient alors que le président Volodymyr Zelensky déclare que l'armée ukrainienne contrôle la capitale. Zelensky aurait refusé une offre américaine de l'évacuer de Kiev, notant qu'il avait besoin de munitions et non d'un trajet. Selon le ministère ukrainien de la Santé, 198 personnes, dont 3 enfants, ont été tuées depuis le début des combats jeudi. Kiev affirme également que plus d'un millier de soldats russes ont été tués, bien que Moscou n'ait publié aucun chiffre. La Russie affirme avoir ciblé l'infrastructure militaire ukrainienne avec des missiles de croisière aériens et maritimes, détruisant plus de 8 cents cibles. Moscou a démenti les informations, faisant état de villes ciblées et déclaré prendre les mesures nécessaires pour éviter les pertes civiles. Environ 115 000 Ukrainiens sont déjà entrés en Pologne. Au quatrième jour de la guerre en Ukraine, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a annoncé dimanche qu'une délégation russe, composée de fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Défense et du bureau présidentiel, était arrivée en Biélorussie pour négocier avec la partie ukrainienne. L'ancien président américain Donald Trump a salué l'intelligence du dirigeant russe Vladimir Poutine, affirmant qu'il pouvait résister aux sanctions imposées par l'Occident à la suite de l'opération militaire en Ukraine. Trump a imputé l'action militaire de la Russie à la faiblesse du président Joe Biden. L'Union européenne, avec les États-Unis et d'autres partenaires occidentaux, prévoit également d'imposer de nouvelles sanctions à la Russie pour son offensive en Ukraine. Von der Leyen a proposé que les dirigeants de l'Union européenne s'engagent à faire en sorte qu'un certain nombre de banques russes soient retirées du système interbancaire SWIFT. Elle a déclaré que cela garantira que ces banques sont déconnectées du système financier international. Le responsable de l'Union européenne a également proposé de geler les avoirs de la Banque centrale russe. Plutôt, Berlin a annoncé qu'il avait accepté de limiter l'accès de Moscou à SWIFT. Pendant ce temps, le président ukrainien a salué cette décision. L'actualité, c'est également les pourparlers de Vienne. Téhéran examine le texte de l'accord selon Amir Abdollahian. Le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran déclarant que Téhéran est en train d'examiner sérieusement le texte de l'accord potentiel à Vienne a souligné « Un bon accord immédiat est disponible s'il y a la volonté réelle des parties aux négociations ». Nous examinons sérieusement le texte de l'accord aujourd'hui avec Josep Borrell, chef et coordinateur de la politique étrangère de l'Union européenne, a écrit Amir Abdollahian sur son compte Twitter. L'autre haut diplomate iranien a ajouté « Mon collègue Ali Borrelli est également en contact et en consultation avec M. Mora. Nous essayons tous de parvenir à un bon accord. Nous avons reflété nos lignes rouges à la partie occidentale. Il a souligné « S'il y a une réelle volonté de leur part, nous sommes prêts pour un bon accord immédiat ». Sachez également que lors d'une conversation téléphonique, Amir Abdollahian a salué les efforts de Josep Borrell, chef de la politique étrangère et négociateur de l'Union européenne, et d'Henrique Mora, négociateur en chef de l'Union européenne, et a souligné que le choix définitif de l'Iran est de ne pas franchir ses lignes rouges. La structure du système nucléaire de l'Iran doit rester intacte selon le président du Parlement iranien. Le représentant de Tabriz à l'Assemblée islamique expliquant la réunion à huis clos pour passer en revue les pourparlers de Vienne a déclaré « Selon le président du Parlement iranien, il n'est pas acceptable de permettre au pays de vendre du pétrole mais de détruire sa structure nucléaire. La structure nucléaire de l'Iran doit rester intacte », a-t-il insisté. Ahmad Alireza Beghi, dans une interview avec le journaliste parlementaire de l'IRNA sur les détails de la réunion à huis clos des députés et le président du Parlement sur les pourparlers de Vienne, a déclaré « Rolibov a soulevé des questions importantes lors de la session à huis clos du Parlement. Selon l'orateur, certains problèmes et défis au JCPOA ont été résolus lors des pourparlers de Vienne. » Mais certains problèmes subsistent, notamment celui des garanties économiques. Enfin, des centaines d'écoliers palestiniens se rassemblent près d'un village de Cisjordanie occupé pour faire entendre leur voix contre les restrictions israéliennes les empêchant de se rendre à l'école. La manifestation s'est déroulée à l'entrée du village de Luban al-Sharia, à Naplouse. Les manifestants brandissaient des pancartes et agitaient des drapeaux palestiniens appelant l'UNESCO à intervenir. C'est la quatrième semaine consécutive que des manifestations sont organisées contre les restrictions. Les soldats israéliens ont riposté avec force, tirant des bombes assourdissantes et utilisant des ballons caoutchouc pour disperser les manifestants. Fin de ce journal, merci de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. Pression maximale contre la Russie possible. La pire déculottée US-OTAN en 62 heures de bataille contre la Russie. Certains répondraient que ce serait ce ridicule avant-projet de résolution proposé par les États-Unis contre l'intervention russe, lequel texte a été soumis au veto de Moscou avec cet épisode bien notable d'une Chine et d'un Inde. Deux puissances rivales que la Russie a réunies, puisque tous deux se sont abstenus de voter. 11 autres membres ayant voté évidemment positivement, mais ne pensant en rien sur les rapports de force encore. Il y a aussi ce rictus ruse après l'annonce des sanctions européennes contre Poutine et Lavrov que les médias mainstream ont tout fait pour agrandir mais qui a regardé de tout près constitue elle aussi une méga déculottée. L'Union européenne n'ayant pas osé d'interdire ni même de restreindre les déplacements du président russe et de son ministre des Affaires étrangères, ce qui fait de ce coup-là aussi une autre mise en scène ratée. Quant aux sanctions très lourdes que l'ex-US-OTAN dit avoir entrepris contre Moscou, rien ne permet d'y voir un coup de grâce, vu que la Russie ne cesse de réitérer depuis un bon bout de temps qu'elle s'en fiche royalement des sanctions qui nuisent bien plus à l'Europe qu'à la Russie, puissance dont le gros des réserves en devises sont en or et qui a presque en otage l'économie moribonde US via ses bons de réserve dont le gaz constitue la meilleure arme contre les otaniens. Mais rien de tout cela n'est la pire déculottée vécue ces dernières heures par le camp d'en face. C'est quoi alors cette pire? La crainte de l'ex-US-OTAN de supprimer la Russie de SWIFT, soit cet épouvantail longtemps agité contre l'Iran, puis appliqué et qui a rendu impossible la quasi-totalité des transactions bancaires iraniennes. Certes, l'Iran a fini par trouver les moyens d'y faire face, mais le camp d'en face n'a pas hésité à user et à abuser de ce levier de pression. Est-ce pareil pour la Russie? pas forcément, dans la mesure où l'économie européenne dépend du marché russe. C'est le cas de l'Allemagne qui a des urticaires rien qu'en pensant avoir à perdre un jour le marché russe. Allemagne qui, déjà dans le dossier de Nord Stream 2, a prouvé à quel point elle danse au bord du volcan chaque fois qu'elle accorde son violon avec le reste des Européens. Il faut toujours faire attention à ne pas nuire à soi-même plus qu'aux autres, dit la presse allemande ce samedi en écho aux propos du président de la CDU, Friedrich Merz, qui a qualifié une éventuelle exclusion de la Russie du système de paiement international SWIFT de bombe nucléaire pour les marchés financiers. C'est dans ce même contexte que, réunis à Paris vendredi, les ministres européens des Finances avaient l'air de pédaler dans le vide, car ils n'ont fait que poursuivre la discussion sur l'exclusion de la Russie du système de messagerie financière SWIFT, sans oser franchir un seul pas en ce sens. Si la France est en faveur de cette décision, car elle souffre d'une mise sous tutelle US de son industrie, l'Allemagne y est réticente, redoutant des effets ravageurs sur son économie, tout comme l'Italie, craignent de devoir faire face à des sérieuses difficultés économiques, par exemple pour régler les transactions sur leur marché du gaz russe, dont Berlin est fortement dépendant. Mais ceci n'est qu'une des facettes de cette impossibilité dans laquelle se trouve l'Occident à punir sérieusement la Russie. Au fait, il existe une autre crainte, celle de voir la Russie créer son propre système SWIFT auquel adhéreraient sans tarder l'Iran, le Venezuela, la Chine, le Mali. Bref, tous les États sanctionnés, ceux en reviendraient à discréditer ou liquider même SWIFT. L'exclusion de la Russie pourrait encourager le Kremlin à accélérer le développement de ce réseau alternatif de transfert d'informations bancaires au détriment des transactions en dollars réalisées avec SWIFT.